Daiquiri.
L'émission LGBTQ, transpète des bigouines de Reims.
Bon, surtout Gwyn.
TKR.
Daiquiri, sur Radio Primitive.
Yeah, fuck you! You don't fucking know me!
And I'm as free as the wind that's blowing out on this beach.
Daiquiri.
Daiquiri.
What are you all looking at?
TKR. Ah, c'est la rentrée.
J'aime bien quand on a du monde en studio qui découvre le générique avec ton petit TKR. Ouais, ça a enchaîné direct, c'était les surprises du direct. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes en direct, il est 18h sur Radio Primitive pour votre émission TransPD Big Win TPG de Reims. Vous l'avez entendu, on le dit assez le fois dans le générique. Nous embarquons pour une troisième
saison. C'est la rentrée.
Et vous avez peut-être pu constater qu'on a aussi changé d'horaire.
Oui, on a toujours le même générique, mais ça fait 3 mois que je ne l'ai pas entendu et franchement, il est trop bien, donc non, on va le garder.
On va le garder pour une troisième saison. Alors, le programme de cette première émission de Daiquiri, on va parler réduction des risques.
Avec des camarades qui sont avec nous en studio, ça fait plaisir. Un collectif rémois, ben on va le présenter juste après, mais on commence par... Tu veux déjà spoiler le nom avant de faire la musique ?
Oui, du collectif ?
Je suis tellement à fond dans la musique que...
D'accord,
rien n'existe,
ok, ben non, je vous laisse peut-être expliquer au moins ce que veut dire le nom, ouais, si vous voulez bien.
Le collectif s'appelle Tarasque.
Ça veut dire trans autonome, Reims et alentour, solidaire et cuir.
Et pour les néophytes, une Tarasque, c'est une bête, la bête la plus horrible de Donjons et Dragons, le monstre le plus intuable.
Ouais, la bête horrible, on voulait l'incarner avec le lobby trans.
Exactement.
Ok, eh bien, on discutera avec les membres de la Tarasque pendant une heure pour parler justement réduction des risques, comment ça se passe à Reims et les obstacles qui se mettent dans notre chemin. Mais, Gwen, elle voulait absolument commencer par une chanson qui a bercé son été, visiblement.
C'est une copine qui me l'a envoyée en disant « Tu vas adorer le clip, peut-être pas la musique. » En fait, j'adore la musique. Donc, elle s'appelle Ash Nico. C'est une chanteuse, compositrice, rappeuse américaine, mais qui vit à Londres. Elle a été connue grâce à TikTok. Elle a fait un album qui est sorti le 15 janvier 2022 et un deuxième album qui est sorti le 2 juin 2023. Donc ça veut dire qu'elle est en tournée à Paris en novembre et il n'y a plus de place et je suis deg. Alors elle présente sa musique comme de la musique de colère, punk, hip-hop, sad girl, féministe, bubblegum et poupou.
Poupou.
Donc ouais, poupou.
Je savais pas que c'était un adjectif, poupou. C'est l'effet que ça te fait ou c'est le...
Je sais pas, bah, pour moi ça veut dire caca, mais peut-être que my English is bad. Mais en tout cas, j'ai fumé toutes ses chansons, c'est trop bien. Y a une reprise qu'elle fait d'une chanson de Kélis qui est géniale. Elle parle plein de tout le temps de sextoy, elle parle de cul. C'est très bubblegum, comme elle le dit. Et du coup, la chanson, c'est Worms. Alors, c'est pas la meilleure, mais c'est celle qu'elle m'a envoyée, ma pote Capucine, que je fais en petite dédicace, merci à elle. Et vous allez voir, c'est trop bien, et allez écouter le reste, c'est génial. Voilà.
Toothpaste, I roll around in blue paint, thinking of new ways that I can self-sabotage. Oh well, it's too late, my host body mutates, my head spins, my neck breaks, I love a self-sabotage. Ooh, brand new day, got a brand new grin, got a colony of ants underneath my skin. My bones decay, now I'm gelatin. I swear I'm his parasite possessor. The world is burning, I got worms in my brain. Change my name. Play my life like a video game. I don't
and I'll be fine. I keep my bed sheets and big wheelies on my mind. I watch it splatter into the sky. She's made of red raspberry jelly and all American pie. Brand new day, got a brand new grin. Got a colony of ants underneath my skin. My bones decay, now I'm gelatin. I swear I'm better, I swear I'm better. Miss Parasite Possessor. The world is burning, I got worms in my brains. Gonna boost my eyebrows, change my name. The world is burning and I laugh at the blaze. Gonna boost my eyebrows, change my name. Play my life like a video game, I don't mind. I'm driving through flames and I'm riding through the desert with the sword on my back. I'm in a what the fuck monster truck, wanna go fast.
Heureusement qu'il y a de la basse, hein, j'ai envie de dire. Oh, c'est non, pas, mais moi, le R&B, c'est pas mon truc.
C'est pas la meilleure, franchement. J'ai mis celle-là parce que c'est celle-là qui m'a fait découvrir, mais franchement, il y en a au moins une dizaine de vachement mieux et faut aller voir. Faut aller voir.
On vous fera une émission spéciale. Parce que je pense que Gwen, elle tiendra pas jusqu'à Noël.
Lance pas,
pour Noël,
lance pas.
Elle vous fera une émission spéciale avec que des chansons d'Ash.
Vas-y, on l'invitera. Chiche. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter donc, le collectif Tarask. Alors, ma question à toi, à Colette, qui vient représenter ce collectif, c'est pourquoi avons-nous besoin de ce genre de collectif dans notre beau pays de la France, qui est universaliste, laïque et qui défend l'égalité des chances?
Tout simplement parce que, comme tous les collectifs de lutte LGBT, on déplore que l'accès aux droits soit pas le même pour les personnes LGBT. Voilà, tout bêtement. En plus, il y a une dimension, il y a une dimension médicale chez les personnes trans, qui est parfois très mise en avant avec le transmédicalisme, par exemple. Mais ouais. Du coup, le but de la Tarask aujourd'hui, c'est d'offrir un rendez-vous hebdomadaire de sociabilité trans en non-mixité pour les personnes également en questionnement et non-binaires. Et également des ateliers de réduction des risques, principalement pour l'hormonothérapie, mais également pour tout un tas de considérations qu'on peut avoir lorsqu'on entame une transition de genre. Donc ça peut être pour la transition sociale, la transition physique d'une manière générale, pas forcément l'hormonothérapie.
Donc le collectif, il existe depuis combien de temps ?
Depuis février 2023.
C'est récent, mais alors comment toi t'en es venu à te dire bon alors à Reims on n'a pas ce genre d'initiative, comment toi t'as découvert, tu nous expliques un peu?
Ouais bien sûr, alors j'ai entamé ma transition en septembre 2022 et à ce moment là je traînais beaucoup à Lille, donc je me suis vachement rapprochée de l'assaut historique là-bas qui s'appelle J'en suis j'y reste et j'ai rencontré énormément de personnes trans à Lille, des personnes en lutte. Et il s'avère qu'il y avait un collectif trans donc, qui s'appelle Résiste, donc le réseau intersectionnel de soutien transféministe.
Prouve que tu existes. Désolé.
Qui organisait des rendez-vous de RDR, de la même manière que ça se passe à Reims. Et donc, quand j'ai appris que ça se faisait, j'y suis allée un dimanche et on m'a dit ah, mais t'es trans, t'es hormonée et tout. J'aurais dit bah, non, pas vraiment, mais je suis quand même curieuse. On m'a dit ah, bah, t'as une raison de plus pour que tu viennes. Et du coup, j'y suis allée. Et ce que j'ai découvert, c'était absolument génial, en fait. C'était des personnes trans qui étaient autonomes par rapport à d'autres formes d'organisation LGBT, qui étaient autonomes par rapport à des formes de médecine qui peuvent être violentes, comme la psychiatrie, ce genre de choses, et qui donc apprenaient et s'auto-formaient, organisaient des ateliers sur l'hormonothérapie, la réduction des risques. Et ce qui m'a énormément plu, c'est que c'était extrêmement pointu. C'est-à-dire, toutes les semaines, il y avait un atelier sur un sujet extrêmement précis. Et ça m'a mise énormément en confiance. Et quand je leur ai dit que j'étais rémoise, elles m'ont mis le grappin dessus. Elles m'ont dit tu repars pas, on va te former et tu y retournes et tu fais la même chose. Et donc ça a pas manqué. Elles ont organisé des sessions de formation avec des filles sur place ainsi qu'avec des rémoises, donc dont je faisais partie. Et une fois ici, on a voulu avec des partenaires d'ici, des personnes trans en questionnement d'ici, pour organiser la même chose, puisque à Reims, alors c'est pas forcément le cas à Lille, mais à Reims c'est un vrai désert pour les personnes trans. Pour la prise en charge médicale, c'est extrêmement compliqué. Encore aujourd'hui, on a l'impression que dans l'espace public, les personnes trans existent de plus en plus, mais pour ce qui est d'une transition physique, c'est toujours aussi compliqué, c'est toujours aussi psychiatrisé malgré la dépsychiatrisation. Il y a énormément de spécificités dans la région dont on pourra reparler.
Parce qu'il crée beaucoup de violences médicales.
Oui, alors... pour les gens qui sont peut-être pas au fait de, du nombre de personnel, enfin de quel type de personnel médical une personne trans doit voir dans son parcours.
Ah, alors c'est énorme, ça va dans tous les domaines. Alors dans ce qui concerne l'hormonothérapie, alors je peux vous faire tout le parcours trans basique, le parcours officiel, parce que comme je dis souvent, il y a deux parcours, il y a le parcours officiel, le parcours autonome. Mais les deux se recoupent tout le temps. C'est pas on est dans l'un ou l'autre. Absolument tout le monde passe par les deux. Ouais. Et donc dans le parcours officiel, c'est énormément de paperasse. C'est faire une demande d'ALD, donc une affection longue durée. C'est le type de papier qu'on demande à son médecin traitant de remplir quand on a une maladie lourde qui nous accompagne sur un certain temps. Donc pour les cancers par exemple et qui demande des traitements coûteux.
Du coup, il faut déjà trouver un médecin qui accepte de le faire. Et souvent, ils ne sont pas forcément fait que c'est possible et que ça existe.
Oui, c'est ça. Alors, encore pire, il y a même des médecins qui sont au courant et qui repoussent l'échéance le plus possible. Donc, c'était typiquement dans les parcours SOFECT, donc la grande association de médecins qui s'occupait à l'origine des transitions. Donc, ça, c'était le parcours officiel pendant très longtemps.
Qui s'est autoproclamé expert, alors qu'en fait, la moitié sont vraiment des transphobes avec une vision totalement binaire et sexiste.
Clairement, quand on parle de repousser l'échéance pour une personne trans, ce qu'ils appellent l'expérience de vie réelle, c'est une réelle violence, c'est une torture. C'est vous dire, vous allez vous habiller, vous comporter d'une certaine manière, mais on ne va vous fournir aucune aide médicale.
C'est prendre des risques parce qu'on veut être sûr que c'est ce que tu veux. En
c'est
gros,
ça,
c'est ça.
Exactement, oui. C'est mettre en danger des personnes sciemment en espérant les convaincre ou les... Ou en tout cas, pour être sûr que les personnes sont trans, en fait, il y a un test d'entrée à la transidentité dans les parcours officiels, ce qu'on trouve absolument dégueulasse, hein, il faut le dire. Mm-hmm. Parce que ce qu'on défend en tant que collectif autonome pour les personnes trans, c'est l'autodétermination et l'autonomie. Et donc, l'autodétermination, c'est respecter les personnes comme elles se présentent et les prendre en charge comme elles se présentent. Et c'est aussi ce qu'on demande dans le volet plus militant du collectif, c'est-à-dire faire des rencontres avec le personnel médical et les former, les sensibiliser aux questions trans.
Puisque le but, c'est quand même que ça s'améliore aussi.
Ah oui, clairement, oui. On n'est pas là clairement pour pallier aux services médicaux. On encourage les gens à continuer à avoir un suivi, en particulier endocrinologique, un suivi psychologique. On encourage aussi, alors à titre personnel, j'encourage beaucoup les gens aussi à utiliser les CECOS, donc les centres de conservation de fertilité, ce qui est quelque chose qui est encouragé par les parcours officiels également, mais qu'on oublie souvent quand on entame une transition.
Donc là, tu as parlé d'endocrinologue, suite à l'ALD, donc c'est la personne qu'on...
C'est la personne qui, normalement, fait ta primo-ordonnance d'hormones. Alors, à savoir qu'il y a aussi d'autres structures qui proposent une primo-ordonnance, comme le planning familial, sur qui on peut compter, fort heureusement. Le médecin traitant aussi peut normalement faire une primo-ordonnance, mais beaucoup de médecins traitants refusent de la faire. Beaucoup encouragent directement les consulter l'endocrinologue.
Parce qu'ils n'osent pas... prendre responsabilité à ça alors qu'ils ne sont pas forcément formés.
Ouais,
mais c'est possible. Quoi.
Et en parlant de ça, les endocrinologues ne sont pas forcément non plus formés à la prise en charge des personnes trans. Et c'est le cas sur Reims, malheureusement. Et dans beaucoup de villes de France, beaucoup d'endocrinologues qui ne savent rien à la thérapie hormonale. Et donc nous, on a une approche qui est réellement, on a une approche réellement scientifique par rapport à ça. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup d'endocrinologues, on se renseigne sur la littérature scientifique.
Donc beaucoup de lectures anglaises, je suppose, américaines.
Ah oui,
plutôt,
beaucoup. Oui, c'est vrai. Oui, c'est beaucoup de sources anglophones. Et ça, c'est aussi un des points qui est important. C'est aussi de partager les ressources et les connaissances entre personnes trans. Donc, on est là aussi pour parler de l'état de la recherche actuelle. Et donc, on utilise tout un tas de ressources qui sont à notre disposition pour pallier à tous les manques qui existent dans la communauté médicale. Mais oui, pour revenir à la liste des médecins, l'endocrinologue, c'est une étape. Il y en a beaucoup d'autres. Quand c'était encore psychiatrisé, on devait aller voir un psychiatre. Il y a encore des endocrinologues qui demandent un certificat psychiatrique, d'ailleurs, alors que je rappelle que ça a été dépsychiatrisé au mois de décembre de l'année dernière, si je me rappelle bien.
Et c'est pour ça qu'aussi, on encourage quand même les gens à avoir un suivi psy, parce que bon, déjà, c'est bien pour sa santé mentale. Mm-hmm. Et ça risque d'être demandé s'il y a d'autres opérations que les personnes veulent faire. Ouais. Donc, autant gagner du temps et pas perdre encore 2-3 ans parce qu'on n'a pas le sésame,
alors
qui,
là, clairement,
même s'il n'est pas obligatoire. Quoi.
Ouais, clairement, pour tout ce qui va être chirurgie, le certificat psychiatrique est demandé, quoi qu'il arrive.
Là aussi, c'est pour se dédouaner en disant « je fais l'OP, mais il y a un psy qui a dit que c'était OK, donc s'il y a un problème... » le chirurgien ne pourra pas être emmerdé, soi-disant. Ouais.
Et étonnamment, c'est un marronnier qui revient tout le temps dans la communauté trans. C'est que les considérations légales, elles n'apparaissent que quand la personne en face de toi elle est trans. Et c'est quelque chose qui nous est insupportable aussi. Tout ce qui va être opération de chirurgie, par exemple, ne vont pas poser problème sur des personnes cis, mais sur des personnes trans, il va nous falloir un certificat psychiatrique, ce genre de choses. Et avoir une certaine durée de THS. Pour, je pense à mes camarades transmasques, à tous les adeptes transmasques qui veulent une torsoplastie, mammectomie. Tout ça, c'est des choses qu'on va proposer à des femmes cis pour leur confort, mais pour des hommes trans... C'est une autre paire de manches, quoi.
C'est des opérations qui ont un taux de regret extrêmement faible, plus faibles qui puissent exister. Ouais. Et c'est les seules personnes à qui on demande des certificats psychiatriques.
Absolument, ouais. Absolument. Et d'ailleurs, il y a cet exemple qui revient, c'est dans une vidéo de Sean sur YouTube, si je me rappelle bien, qui rappelait le taux de satisfaction des opérations du genou. Qui est en dessous de 50%, alors que les opérations trans arrivent facilement dans le 90% de satisfaction, les choses comme ça. Du coup,
C'est vrai que ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup dans tous les médias, surtout actuellement, où en fait c'est des bêtises. Déjà, on ne transitionne pas en deux jours, que le parcours est très compliqué.
Qu'il est pris en charge aussi. Il y a aussi ce mensonge qu'il est pris en charge. Parce que je parlais de l'ALD tout à l'heure, mais l'ALD prend en charge à 100% le ticket modérateur, ce qui n'est pas l'ensemble du coût du soin, en particulier avec les chirurgies qui font encore débourser des milliers d'euros à tout un tas de personnes. Il n'y a pas d'opération gratuite.
Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de caisses qui sont mises en place en ligne pour justement arriver à.
Oui, absolument. C'est aussi l'intérêt de nos collectifs autonomes trans, c'est aussi de créer des liens de solidarité entre les personnes concernées, d'où aussi la non-mixité, de pouvoir parler de ce genre de choses entre nous, quoi.
Parce que toute cette précarisation médicale, elle, in fine, c'est aussi une précarisation sociale extrême, économique. Oui. Et donc, du coup, les personnes trans sont d'autant plus précaires que la majorité des gens, en fait.
La sociologie de base, pour parler des personnes trans d'une manière générale, c'est peut-être un petit peu anecdotique, mais je connais pas grand monde dans la communauté qui gagne bien sa vie. Enfin, je suis au RSA, je connais beaucoup de monde au RSA, des gens en formation, des gens au chômage. L'insertion sociale est extrêmement compliquée pour trouver un logement, pour trouver du travail, pour avoir accès même aux services de base. Rien que se pointer à Pôle emploi ou à la CAF et présenter... un genre autre que celui de la carte d'identité, c'est une violence. C'est compliqué à expliquer à des personnes cis. C'est vraiment un sentiment d'inadéquation vraiment bizarre. Après, parler de l'expérience trans, c'est peut-être autre chose. Mais,
Et donc, du coup, on préfère se cacher, rester chez soi et du coup, pas être aidé.
Oui, parce qu'au-delà, oui, tu as tout à fait raison, au-delà d'un certain isolement social et économique, il y a vraiment cette question de l'isolement tout court. C'est qu'il y a beaucoup de personnes trans qu'on ne voit pas dans l'espace public. Et moi, je sais qu'il m'arrive régulièrement. En fait, on pense que c'est une petite communauté que tout le monde se connaît. Mais il m'arrive de croiser des gens que je n'ai jamais vus. Des femmes trans, par exemple, que je n'ai jamais vues, que je croise dans la rue. Et aussi des personnes que je rencontre et qui me disent j'ai pas de lien social, j'ai pas d'amis, je parle à personne. Et donc c'est des gens qui se retrouvent isolés dans un système souvent qui passe par le système officiel pour la transition, donc ils sont soumis à énormément de violence.
Ils voient que des médecins, de c'est ça. Safe.
Et oui, c'est vrai que c'est une réalité. On voit beaucoup d'adelfes qui en fait n'ont presque pas de sociabilité et voient exclusivement des médecins 3-4 fois par semaine.
Parce qu'avec la transition, il y a le risque d'avoir une rupture familiale, d'avoir une rupture amicale. Donc
sentimentale, beaucoup de ruptures de couple aussi.
C'est vrai que l'isolement est là. Et encore, on est dans une période où c'est un sujet qu'on parle plus. Mais là, bon, je vais faire ma vieille trans. Moi, j'ai eu 5 ans d'errance à ne pas savoir qui j'étais parce qu'en fait, il n'y avait aucune représentation des personnes transgenres. Et quand je l'ai découvert, ça m'a fait du bien. Et là, je suis très heureuse de voir que maintenant, grâce à l'apport des séries...
La mise en lien d'Internet de manière générale.
Oui, clairement.
Donc on devient un sujet un peu mieux traité, on va dire, même si c'est pas encore parfait parce qu'il y a encore beaucoup de discours crades sur nous. Mais ça, je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de bébés trans qui, dès 13-14 ans, au lieu de se sentir mal dans leur peau, disent « Ah bah tiens, c'est peut-être ça », et voir si c'est ça, et quand ils savent que c'est ça, pouvoir avancer vachement plus vite, quoi. Même si, comme on dit, il n'y a pas d'âge pour transitionner, c'est un parcours personnel et c'est à chacun de voir, quoi. Et comme on dit aussi, l'hormonothérapie n'est pas obligatoire.
Totalement,
à chacune de voir ce qu'elle a envie, là où elle se sent bien, et pour être crédible et acceptée, quoi.
Ah bah oui, de toute façon, en tant que collectif engagé contre les violences médicales, on peut pas de fait être des transmédicalistes. Donc pour nous, il n'y a pas de bonne façon de transitionner, il n'y a pas de bonne façon...
pas, y a aucun jugement.
C'est la personne qui choisit, en fait.
Et bien sûr, c'est l'autodétermination qui prime, quoi qu'il arrive. Et c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai beaucoup parlé du lien au médical, mais pour les personnes non-binaires, par exemple, le médical, ce n'est même pas une solution. C'est quelque chose qui est totalement ignoré par les professions médicales.
Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur non-binaire ? On a utilisé beaucoup de termes depuis tout à l'heure, cisgenre, transgenre. Alors c'est vrai que pour certains et certaines qui nous écoutent, c'est peut-être pas forcément facile à suivre. La non-binarité, vous voulez bien mettre quelques mots dessus pour la différencier d'une expérience trans ?
Alors, pour beaucoup de gens, c'est une expérience trans, mais c'était le piège.
Ça peut être un débat aussi.
C'était un piège. Mais oui, l'expérience non-binaire, c'est de ne pas se reconnaître dans un genre ou dans l'autre, qui sont encore des catégories très, très définies socialement, avec des grosses attentes. Même si, selon moi, même dans une binarité de genre, il y a toujours cette façon de créer de nouvelles façons d'être chez les personnes trans. Et c'est d'ailleurs un argument transphobe. On nous reproche souvent de recréer des rôles de genre, alors qu'on
stéréotypes.
Les... Voilà, des stéréotypes de genre. Mais dans les faits, on invente de nouvelles façons d'être. J'ai une féminité qui n'est pas une féminité dont on fait la promotion partout. Je suis une personne à part entière, comme toutes les femmes, comme les transmasques qui ont des façons d'être des hommes qui sont différentes, et fort heureusement, des façons différentes d'être des hommes que les hommes cis de base. Et oui, la non-binarité, ça vient un petit peu chambouler tout ça.
Et donc, les personnes non-binaires, au final, ont encore moins accès, c'est ça c'est...
Ah oui, totalement. Ah oui, la prise en charge trans, elle est souvent conditionnée aux preuves qu'on peut rentrer dans une binarité de genre, qu'on peut rentrer dans l'autre genre. C'est la condition. C'est pour ça que je parlais de l'expérience de vie réelle tout à l'heure. C'est qu'on prend une personne assignée garçon. Bon, j'aime pas trop le terme, mais on prend une personne assignée garçon. On lui dit, tu vas t'habiller en fille. Tu vas dire à tout le monde que t'es une fille, mais on va pas t'aider. Tu te démerdes. C'est conditionner l'accès à des soins qui sont importants pour cette personne, car il y a des personnes non-binaires qui s'hormonent. C'est même beaucoup le cas. Mais c'est des personnes qui sont obligées de le faire en autonomie, parce qu'il n'y a aucune structure d'accueil pour les personnes non-binaires. Aucun parcours officiel pour les personnes non-binaires.
Parce que pour les trans, ça va être what ? Et puis pour les non-binaires, ça va être what ?
Ouais, c'est ça.
Pour traduire en version simple.
C'est bien, c'est qu'on en rajoute toujours une couche. Ils croient qu'on ne pourra jamais les surprendre davantage, mais si ! Bam ! Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, si vous voulez bien. Et après, j'aimerais bien que tu nous expliques comment ça se passe. Concrètement, un rendez-vous tarasque à Reims pour désacraliser un petit peu tout ça et expliquer aux auditeurs et auditrices tout simplement si un jour elles veulent venir rejoindre le collectif, comment ça va se passer. Je crois que justement, Colette, tu avais envie de nous faire découvrir une artiste qui s'appelle Sophie.
Ouais.
Qu'est-ce que ça représente, Sophie, pour toi ? Tu nous en parlais déjà tout à l'heure un petit peu hors direct.
Alors Sophie, c'est une femme trans. C'était malheureusement une femme trans qui est décédée il y a peu de temps, il y a quelques années, qui était une figure montante de la musique électronique et dont on a souvent pensé que c'était un homme cis qui s'appropriait des codes féminins. Et au final, il s'avérait que c'était une femme trans. Et au moment où elle a commencé à percer, elle est décédée dans des circonstances malheureuses. Après, je trouve ça très poétique parce qu'il paraît qu'elle est décédée en prenant une photo de la lune. Elle est tombée d'un balcon en soirée.
Comme ouais. Quoi
c'est attention à la lune. Attention.
Mais oui, Sophie, pour moi, c'est très important. C'est comme toutes les artistes trans, c'est beaucoup de représentations. Enfin, je sais, on pourrait aussi parler de Laura Jane Grace qui m'a beaucoup inspirée dans la mienne.
Qu'on écoutera peut-être
peut-être, j'espère.
voilà, le spoiler. La chanson que tu nous as choisie, c'est It's Okay to Cry, qu'on pourrait traduire par C'est Okay
de pleurer,
de verser une larme. Mm-hmm. On se passe ça et on revient dans Daiquiri.
I hope you don't take this. your inside is your best side. I'm high, is that a teardrop in your eye? I never thought I'd see you cry. Just know whatever hurts, it's all mine. It's okay to cry, it's okay to cry. I'm high, see the truth through all the lies. Even after all this time, just know you've got nothing to hide. It's okay to cry, it's okay to cry. It's okay to cry, it's okay to cry. It's okay to cry, it's okay to cry. I remember one time you were lost. I came to find you, and I knocked on your front door. That was you and never seen before. And I saw the magazine you were reading, and I read the page. And if I had just one single wish, wish I could have said this. It's okay to cry. I'm high, was that a teardrop in your eye? I never thought I'd see you cry. Just know whatever hurts, it's all mine. It's okay to cry, it's okay to cry. See the truth through all the lies. And even after all this time, just know you've got nothing to hide. It's okay to cry, it's okay to cry. There's a world inside you, I wanna know what it feels like. I wanna go there with you. Could we all go dark place? Maybe, but we shine some light there. It won't be so hard. I wanna know this part of you. My high, was that a teardrop in your eye? I never thought I'd see you cry. Just know whatever hurts, it's all mine. It's okay to cry, it's okay.
J'allais dire, c'est vachement sensuel juste avant que ça parte en électronique, tout ça, c'était sympa comme tout. Merci de nous avoir fait découvrir Sophie avec It's Okay to Cry, une artiste qui malheureusement n'en pourra plus suivre des nouvelles chansons.
Ouais, c'est fort malheureux, ouais.
on est avec le collectif Tarasque justement en direct sur Radio Primitive dans Daiquiri et on discute avec ce collectif de réduction des risques puisque c'est bien l'objet du collectif Tarasque, réduire les risques, se réunir chaque semaine pour cela. On a expliqué un peu l'origine de ces groupes-là, de ce que tu avais vécu, toi, Colette, dans l'expérience lilloise, et comment tu avais voulu ramener cette expérience à Reims, puisque Reims est un désert médical pour les personnes trans, et c'est bien là le but de la Tarasque, pallier à ce désert médical. Comment ça se passe, un rendez-vous Tarasque, concrètement ?
Alors, tout bêtement, on se retrouve toutes les semaines, on fait un accueil, on fait une présentation du collectif, de ses règles, car on est en autogestion, donc toutes les personnes ont droit de citer. Les prises de décision sont toujours collectives, si possible sur la base du consensus. Et donc, le plus important, c'est l'accueil des nouvelos. C'est leur dire, alors vous êtes ici, voilà comment ça se passe. Et après ça, on fait un tour pour dire qui on est, comment on s'est retrouvé là, ce que le collectif fait pour nous aussi. Donc ça fait un petit peu culte comme ça, mais, mais c'est vachement important de parler de nos vécus.
Ça fait, c'est quand même le mode de fonctionnement des groupes de parole.
Ah oui, clairement, clairement,
on est
c'est
les trans
un groupe de parole
en fait.
Ouais, bah un petit peu, pas trop anonyme, mais, ouais, mais juste les trans.
Désonyme.
Mais oui, parce qu'il y a tout cet aspect social qui est vachement important pour nous. Parce qu'on essaie aussi de créer des liens de solidarité.
Comme tu le disais, les personnes trans sont très isolées.
Sont très très isolées, oui. J'ai l'exemple, j'ai des exemples, je ne citerai pas de nom, mais il y a plein de personnes que j'ai rencontrées qui étaient un petit peu isolées. Et le fait de les ramener à la Tarasque, ça leur a permis de se poser les bonnes questions, d'avancer dans leur transition, de se faire des amis. On a des couples qui se sont formés. On aura peut-être bientôt les premiers bébés Tarasque, d'ailleurs. C'est tout
ce qu'on sait. Oh, damn.
Comment on appelle ça, une agence matrimoniale?
Alors, l'agence matrimoniale, c'est moi toute seule. Mais la Tarasque, c'est alors, de façon régulière, oui, un groupe de parole pour les personnes qui sont en galère et aussi un système d'entraide aussi pour les personnes qui... Alors, l'accès à l'information est aussi un... quelque chose qui est très important pour les personnes trans, c'est comment entamer un parcours légal, comment faire un changement d'état civil, ce genre de choses. Ça, c'est les choses dont on parle aussi toutes les semaines. Et en fait, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, parce qu'il y a assez peu de ressources qui sont mises à la disposition des personnes qui se posent des questions sur leur genre, par exemple. Mmh. Donc, on est là pour ça. Ensuite, il y a l'espace RDR que j'anime personnellement, car je ne suis pas chef de rien du tout. Je tiens à le préciser. Je suis pas chef. Je suis usagère, je suis militante et je suis aussi animatrice. Donc, je m'occupe du pôle RDR. Donc, le but de la RDR, c'est de proposer du matériel gratuit à disposition des personnes qui souhaiteraient s'hormoner. Donc, peu importe leur mode d'hormone, peu importe la façon dont elles souhaitent s'hormoner, on a du matériel qui est à disposition, disponible gratuitement. C'est autofinancé, on n'a aucune subvention et on apprend aussi entre nous les gestes. Voilà. On apprend les gestes d'hormonothérapie, en particulier en ce qui concerne, je pense que c'est ce qui fait le plus peur aux gens d'une manière générale, l'auto-injection. L'auto-injection qui, je le rappelle, est pratiquée pour tout un tas d'autres soins, par exemple pour les personnes diabétiques, ou alors même des personnes cis qui ont besoin de s'injecter des hormones. C'est des choses qui arrivent dans le cas de cancer, pour la ménopause, ce genre de choses.
Donc pour toi, c'est ça, la réduction des risques principalement, c'est apprendre aux personnes qui viennent assister à ces rendez-vous les bons gestes pour qu'elles arrivent à voir si déjà peut-être leurs praticiens ont les bons gestes, et puis si un jour il y a un problème, qu'elles puissent être en mesure de gérer par elle-même, c'est ça?
Alors, on n'est pas là pour pallier aux professionnels de santé. Malheureusement, dans les faits, on est là et on le fait. C'est malgré nous. On est là pour permettre aux personnes qui le souhaitent d'obtenir une autonomie par rapport à leur traitement hormonal. Et donc, au niveau des gestes, oui, on est principalement là pour offrir des gestes et du matériel propre et aussi un environnement safe pour le pratiquer. Puisqu'il y a le gros problème de l'accès aux soins pour les personnes trans, c'est aussi les violences transphobes qu'elles peuvent subir. Je sais par exemple qu'il y a même, ça pourrait laisser sourire, mais rien que chez les dentistes par exemple, on a vu un sondage qui est paru récemment, enfin un sondage en ligne qui a été fait par des orthodontistes qui se demandaient mais pourquoi les personnes trans ne viennent pas consulter. Eh bien tout simplement c'est parce que souvent les personnes subissent de la transphobie. Et donc c'est le cas aussi par exemple pour le personnel infirmier, des personnes qui sont censées délivrer des hormones, ce genre de choses. Donc on a beaucoup de gens qui souhaitent être autonomes par rapport à ça. Et ça crée donc un vide où on a des gens qui peuvent acheter du matériel, qui peuvent s'hormoner, mais qui n'ont pas forcément les gestes, les techniques ou les connaissances requises pour le faire et qui se mettent en danger. Mmh. C'est là qu'intervient la RDR. Donc c'est de la RDR de la même manière qu'il y a les CARUD, AIDS. On est là pour prévenir des risques. On n'est pas là pour en créer.
Les CARUD, on précise, c'est les personnes qui tiennent des stands de prévention et d'accompagnement sur la consommation de stupéfiants.
Ouais, c'est ça.
Oui, tout à fait.
Donc oui, c'est un rôle que vous avez en commun, j'ai envie de dire.
Enfin, on est totalement dans la même démarche que AIDS et les CARUD. On est là pour limiter les risques, surtout dans la communauté LGBT qui a connu les années SIDA, par exemple. Donc on prévient toute forme de risque, tous les risques infectieux qui peuvent exister avec les fractions cutanées, le fait d'utiliser une aiguille, tout simplement, mais aussi pour les maladies qui peuvent être transmises d'une personne à l'autre, et par exemple l'hépatite, le SIDA. Ça, c'est des choses auxquelles on fait attention. Et c'est quelque chose. Enfin, on essaie d'être vraiment carré par rapport à ça.
Et puis on apprend aux gens avec quand même des critères assez hauts, parce que comme ça, si jamais ils doivent le faire en autonomie, d'avoir appris avec des habitudes très très hautes, on sait que même s'ils baissent d'un level, ils sont déjà totalement protégés, quoi.
Ah oui, clairement, parce que dans la pratique de la réduction des risques, on a plusieurs standards. Et le standard infirmier, par exemple, est beaucoup plus bas que ceux que moi, par exemple, je présente aux personnes dont je m'occupe. J'ai quand même une formation hygiène et salubrité, je tiens à le préciser. Je rappelle que je ne suis pas médecin, mais une formation hygiène et salubrité.
Pas encore.
Pas encore. Pour tout ce qui est de la réduction des risques, je suis auto-formé. Donc, c'est une auto-formée. Enfin, auto-formé, non. J'ai été formé par le collectif Résiste. Et donc, le collectif Résiste, qui fait partie, au même titre que nous, est le flirt du STRIP, donc le syndicat trans des injectoristes précarisés. D'ailleurs, syndicat, pourquoi ? Parce qu'on est pour la reconnaissance du travail social des personnes trans et de l'activité de RDA. Mais ça, c'est un autre sujet, pour en parler des heures.
On reviendra.
On reviendra là-dessus sur trois autres émissions. Et oui, donc on est là parce qu'il y a une demande, tout bêtement. Il y a une demande des gens qui se mettent en danger. Et on est là pour pallier à ça, parce que... On voit, par exemple, je savais avant ma transition qu'il y a des gens qui s'injectaient, mais je ne savais pas comment. Et j'ai vu tout un tas de choses sur les réseaux sociaux. Par exemple, dernièrement, une femme trans sur TikTok qui a l'air assez connue, qui a pratiqué une inject. J'ai jamais vu des gestes aussi dangereux. L'aiguille dans la cuisse, son chien vient jouer avec elle, enfin ce genre de choses. Hein. Et c'est justement pour éviter ce genre de situation que la réduction des risques est vachement importante, comme elle l'a toujours été d'ailleurs dans l'histoire de la communauté LGBT depuis le sida. Je tiens à le rappeler.
Et donc la Tarasque, depuis sa création, tu nous disais cette année, voit arriver beaucoup de personnes trans en son sein.
Oui.
Comment tu... La dynamique est quand même différente de ce qui se passe à Lille.
C'est
ça que tu disais tout à l'heure ?
Au niveau de la dynamique, alors... Par rapport à Lille, nous, on a ce désavantage que la prise en charge est beaucoup plus compliquée à Reims qu'à Lille. Parce qu'à Lille, par exemple, il y a des centres de santé communautaires comme la maison de santé déplacée de Lille-Moulin qui a mis à jour un protocole de prise en charge des personnes trans qui est très carré, qui d'ailleurs sert de base à toutes les discussions des collectifs ou des associations de médecins pour l'accueil des personnes trans. Ça reste la base de la discussion, même si ça va pour des choses plus transphobes. Enfin bref, ça c'est des considérations politiques au niveau gouvernemental. Mmh. Mais ouais, la maison déplacée de Lille-Moulin a un protocole qui est vraiment béton. Donc les personnes trans ne sont pas complètement isolées non plus à Lille. Mais c'est surtout grâce aux efforts collectifs et politiques des gens sur place qui mettent en place justement des cercles de RDR, des collectifs de lutte trans.
Parce qu'il y en a à Lille, mais au final, on en discutait aussi tout à l'heure, ces collectifs, dont ce collectif à Reims, il y en a dans plein d'autres villes.
Ah oui, ça se met en place absolument partout. On a eu récemment Saint-Étienne qui en a créé un, malheureusement leur nom m'échappe. Il y en a un à Paris, bien sûr. Il y a le Flirt de Paris qui est à l'initiative de plein de choses au niveau national avec Résiste de Lille. Donc, par exemple, la publication d'un flyer sur comment s'auto-hormoner, qui est un très bon flyer que je recommande. Si vous faites partie d'une structure de RDR ou d'une structure qui accueille des personnes trans, c'est un très bon flyer à avoir. C'est un flyer d'ailleurs qu'on a distribué plusieurs fois lors de nos soirées RDR.
Qui montre qu'on peut s'injecter avec des faux ongles.
Ah oui.
Ce qui est balèze.
La méga classe, super glamour le flyer, on l'adore.
Et normalement, il y a une version transmasculine qui devrait arriver.
Il y a une version transmasque qui arrive, tout à fait. Ça reste, ça reste plus ou moins les mêmes gestes, hein, bien sûr. Le matériel peut changer.
Il y aura peut-être des moustaches sur les ongles.
Ça, on l'espère. Ça serait classe. On l'espère.
Très sincèrement. Vraiment. On se remet une musique ?
Vas-y.
Allez, le petit Against Me dont on parlait tout à l'heure, là, vous me l'avez si bien vendu que voilà quoi.
Oui, c'est toujours bien, Against Me, donc ce groupe de punk rock américain qui s'est créé en 97, qui a à son actif 7 albums, 2 albums live et 11 EP. Et on parle d'eux parce que en fait la chanteuse a transitionné, donc maintenant elle s'appelle Laura James Grace, qui a fait son coming out en 2012. J'ai découvert qu'elle était sortie avec Cœur de Pirate en 2016. Ah, j'adore faire des gossips, c'est génial. Mais apparemment ça s'est mal passé, mais j'ai l'impression que c'est à cause des médias qu'ils ont dû faire chier Cœur de Pirate parce qu'elle sortait avec une meuf trans.
Bref. Donc Cœur de Pirate et Pan.
Ben, je crois qu'elle se définit comme pan ou bi, mais
non, mais je ne connais pas en fait Cœur de Pirate, donc c'est mais juste ça.
Si, c'est en Miami et franchement, c'est j'aime bien quand même.
En tout cas, je tiens à dire que Laura Jane Grace, pour moi, c'est un modèle de féminité trans, et c'est grâce à sa représentation aussi que j'ai transitionné, parce que j'écoutais beaucoup Against Me, et quand j'ai appris qu'elle était trans, je crois que ça a débloqué quelque chose en moi.
Et surtout dans nos milieux, parce que c'est du punk rock, donc c'est quand même un milieu assez viril. Ils sont passés en concert à Reims peu de temps après son coming out, et genre il y avait un petit jeune qui était là, qui avant le concert criait beat, beat. Du coup, je suis allé le voir, je lui dis, c'est quoi le problème, gros ? Enfin, en fait, c'est pas drôle ton truc. C'est donc ferme ta gueule et profite du concert, quoi. Et bon, c'est ce qu'il a fait, heureusement. Mais voilà, donc franchement, c'est sur scène, c'est impressionnant. Elle est encore plus classe maintenant parce que bah du coup, elle est vraiment elle et ça fait du bien. Et je sais qu'en plus, ça, je crois que son coming out s'est plutôt bien passé dans le milieu. De ce que j'ai cru voir.
Alors, elle a eu des difficultés au niveau personnel, je crois, parce qu'elle était déjà maman. Ouais. Et c'est aussi un modèle de maternité trans. Enfin, c'est une personne vraiment incroyable. Elle a toujours quelque chose d'intelligent à dire. Et je trouve que c'est vraiment une personne exceptionnelle, vraiment. Et
elle a fait un bouquin autobiographique en 2016. Ouais. Je ne me rappelle plus du nom, mais je ne pense pas qu'il soit traduit. Ce sera pour les anglophones exclusivement.
OK.
Et la chanson, c'est Crash.
Crash.
Crash. Avec mon accent anglais.
Je viens de cracher sur le micro.
Vas-y, vas-y.
Ah non.
On a refait.
Là, ça me plaît plus, tu vois.
Parce forcément. Qu'il y a de la guitare. Toi, il faut de la guitare.
Oui, peut-être, c'est ça. Vous êtes toujours dans Daiquiri. Yeah. Il est 18h43 pour celles qui nous suivent en direct. Et sinon, vous nous écoutez peut-être ce samedi entre 12h et 13h pour la rediffusion de cette émission Daiquiri ou bien même en podcast.
Ah oui.
Ouais, whenever you podcast, want, baby.
Sur le beau site de la Radio Primitive avec
voilà,
plein de dinos.
Tout ça. Nous sommes. Encore,
on finit
avec la Tarasque, collectif rémois de réduction des risques pour les personnes trans. Nous parlions du déroulement de ces rendez-vous, de ce qui pêchait un peu à Reims. Et c'est vrai qu'il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé en termes d'hormones, je crois, c'était ça, hein, l'axe.
Ouais.
C'était la pénurie des hormones qui en ce moment.
Et en ce moment, c'est la testo qui est en manque, mais ça fait déjà plusieurs années où, de temps en temps, vu qu'en fait, les hormones, ils sont principalement faits pour les personnes cis, les femmes ménopausées ou les hommes qui ont un problème de testostérone, c'est pas vraiment fait pour nous. Malgré ce que disent les TERF, que le lobby pharmaceutique, c'est nous qui nous finance pour arriver à transformer le monde en monde trans, c'est faux. On est 1% de la population, on n'est pas rentable, donc clairement, le lobby s'en fout. Donc l'avantage du collectif qui est créé ici, c'est aussi de pallier à ça, d'avoir cette autonomie qui nous permet au moins d'avoir nos hormones, si jamais il y a des problèmes d'approvisionnement, mais aussi, surtout, des problèmes au niveau politique. Parce qu'on a vu qu'aux États-Unis ou en Russie, les personnes trans n'ont plus accès aux hormones, parce qu'il y a des lois transphobes qui ont été votées. Donc c'est très, 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 très violent. Ça peut être compliqué pour
Et le vent tourne super rapidement aussi. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Le vent tourne extrêmement rapidement. On voit plein de pays dans lesquels des paniques morales sur les trans commencent à émerger. Et après, les personnes trans, c'est toujours les femmes qui prennent. C'est toujours l'autodétermination,
LGBT,
l'autonomie du corps. Voilà. Donc, on va toujours s'attaquer à des minorités de genre et ensuite s'attaquer aux femmes, au droit à l'avortement. Enfin, tout ce qui a à voir avec l'autonomie du corps des personnes, c'est toujours des choses qui sont remises en question en permanence.
Parce qu'en ce moment, là, c'est le RN et LR qui discutent de nous à l'Assemblée. Et je peux vous dire que ce qui va sortir, ça ne va pas être très beau. Et la nomination d'Aurore Berger au gouvernement, nous, elle nous a beaucoup inquiétés parce que c'est une des premières à avoir reçu les collectifs TERF. Donc clairement, c'est des ennemis.
Ouais, c'est un signal fort. Pour la communauté trans, c'est même pas un signal faible, c'est vraiment un signal fort, Aurore Berger. Ouais. C'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup.
Et du coup, comment ça se passe quand un pays comme ça décide de, il y a plus de produits, enfin de vente d'hormones, quoi. Il y a un marché noir qui se met en place.
Alors en France, c'est déjà un marché gris d'ailleurs pour les injectables, parce que je rappelle qu'en France, il n'y a pas d'AMM d'autorisation de mise sur le marché pour les hormones injectables, donc l'estradiol, donc à destination des transfemmes. Il y a une autorisation de mise sur le marché pour l'androtardil, pour la testostérone, d'une manière générale, mais pas pour l'estradiol. Donc c'est déjà un marché gris qui existe.
Je peux dire aux États-Unis comment ça se passe dans des États comme la Floride où c'est devenu inaccessible. Les médecins là-bas risquent la prison s'ils prescrivent des hormones ou suivent même des personnes qui ont déjà un traitement hormonal. Donc ça va être des personnes qui vont se retrouver, moi j'ai appelé ça exilées de leur État, de là où elles habitent. Elles sont obligées de déménager, de changer d'État si elles veulent continuer leur vie. Si elles ne veulent pas qu'on leur retire leurs enfants, parce que pour certaines personnes trans, c'est risqué qu'on leur retire leurs enfants. Donc elles se retrouvent obligées de déménager, changer de vie complètement. Ou alors,
sachant que c'est déjà pas facile, comme on disait tout
à l'heure.
Oui,
c'est déjà pas facile en plus.
Après, il y a des États qui ont dit qu'ils étaient accueillants pour les personnes trans qui partaient pour cette raison, heureusement.
Et sinon, oui, c'est se tourner vers un marché noir ou gris. Gris en France, dans des États comme la Floride, un marché noir. Et toujours au risque d'avoir des produits qui soient plus chers, de moins bonne qualité peut-être. Et moins confortable pour certaines personnes de ne pas avoir le suivi médical aussi
à savoir que les produits qui sont disponibles dans chaque pays, c'est un petit peu aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays en Europe où on a des choses qui sont disponibles et pas d'autres. Je sais qu'il y a des pays dans lesquels on ne peut pas vraiment avoir de patch, mais on peut avoir des injectables. En France, on peut avoir des patchs, mais pas d'injectables. Donc il y a beaucoup de gens qui vont acheter des hormones un peu partout en Europe. Il y a des labos européens qui ont essayé de faire des demandes d'AMM pour la France. Donc pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Donc pour l'instant, malheureusement... Pour tout ce qui est injectable, c'est encore compliqué en France d'accès. Ouais. Mmh. Et c'est pour ça aussi que les groupes de RDR se sont formés. C'est parce qu'il n'y a pas de prise en charge officielle des personnes trans qui souhaitent s'injecter.
En sachant qu'en plus, c'est le mode pour aider à la transition qui est quand même le plus safe et qui marche le mieux, quoi.
Alors, la plupart des modes se valent. Il y a aussi, dans la communauté, ce qu'on dit souvent, c'est le gros avantage de l'injection par rapport aux autres, c'est l'accès à la monothérapie. Et l'accès à la monothérapie, ça nous permet de ne pas avoir à prendre d'anti-androgènes, qui pour beaucoup ont des effets secondaires extrêmement violents. Je pense à l'androcure, par exemple, qui cause d'énormes risques de méningiome.
Qui est la base d'un castrateur chimique.
On peut dire ça, parce que ça parle aux gens. Pour nous, c'est pas très choquant, mais pour la plupart des personnes cis, dire je suis trans, du coup, on me donne des castrateurs chimiques. Ouais.
C'est interdit aux États-Unis, donc il faut imaginer si c'est interdit aux États-Unis, si qu'on le fasse encore en France, je trouve ça un peu dingue.
Ah, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on considère que la plupart des endocrinologues n'y connaissent pas grand-chose, parce que dire monothérapie à l'endocrinologue, vous avez 3 chances sur 4 qui ne sachent pas de quoi vous parlez. Alors que c'est quelque chose qui est très établi dans la communauté trans depuis des années maintenant.
Merci. Je crois qu'on peut mettre bientôt un terme à cette discussion. Peut-être nous dire, si vous le voulez bien, comment on peut contacter Taras, comment on peut venir participer à l'un des groupes ?
Bien sûr. Alors, d'ailleurs, au-delà de ça, j'avais tout un tas de ressources à donner aux auditeurices.
C'est vrai. Que ça
commence. Alors, j'ai deux minutes. Alors, si vous souhaitez des informations sur la transition d'une manière générale, vous avez le Wikitrans, qui est une super ressource pour les proches, les personnes trans en début de transition. Si vous souhaitez des nouvelles de la communauté trans, vous avez XY Media sur YouTube. C'est vraiment super.
Très beau matos.
Ouais. Et on recommande leur vidéo sur l'expulsion de la Baudrière, qui avait un groupe de RDR à Paris.
Squat queer.
C'était un squat.
C'était un squat, tout à fait. Alors, qu'il y avait un groupe de RDR qui s'est fait expulser. C'est très récemment. Si vous ne connaissez rien du tout à la transidentité, que c'est quelque chose qui vous intéresse, je recommande le podcast de Méta de Choc, la série sur la transidentité avec Sheikha, qui est excellent. Si vous êtes professionnel de santé, je vous recommande la plateforme Transidenticlic. C'est donc un site avec un petit protocole de prise en charge des personnes trans qui est très bien fait. Et si vous êtes trans ou en questionnement, je ne peux que chaudement vous recommander le Discord Parole Trans. Vous pouvez le trouver avec une petite recherche Google, c'est Parole Trans. C'est donc notre squat en ligne, c'est notre Discord.
J'allais dire c'est local.
C'est local, ah, ouais, c'est local. Très local. C'est
ça s'est créé pendant le Covid justement pour pallier à l'isolement des personnes trans.
C'est ça. Et ça fait encore très bien son travail.
Oui, c'est clair.
On rencontre tout un tas de gens géniaux dessus. Et pour contacter la Tarasque directement, Parole Trans, il y a beaucoup de gens de la Tarasque dessus. Sinon, c'est tarasque51@protonmail.com, donc tarasq51@protonmail.com.
On remettra l'adresse dans le podcast pour que vous puissiez contacter directement. Je pense que c'est plus facile à la fois pour discuter et puis pour peut-être venir à ce groupe. Quoi.
Et si vous n'êtes pas trans mais que vous voulez aider et que vous avez un trop plein d'argent, vous pouvez aussi nous envoyer de la thune parce qu'en fait on a besoin d'argent pour arriver à aider les personnes pour leur transition. Parce qu'il y a du matériel aussi à acheter, tout ça.
Ouais.
Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour dire, je veux bien filer 20 boules, même 10 boules.
Et tout l'argent sera utile et n'ira que dans du matériel de réduction des risques à destination des personnes trans.
Et je veux préciser aussi que si vous voulez venir pour la première fois, vous êtes un peu timide, vous pouvez venir accompagner. Il n'y a pas de problème.
Ouais. On accepte.
À savoir qu'on est un groupe en mixité choisi, mais si vous avez besoin d'une personne accompagnante qui est cis, ça ne pose aucun problème.
Les cis de compagnie sont acceptés.
Voilà, les cis de compagnie sont acceptés.
Ils sont bienveillants, bien sûr.
Et d'ailleurs, on ne fait pas de gatekeeping, on ne fait pas de transmédicalisme. Si vous êtes une personne trans ou une personne en questionnement, si vous vous demandez si vous êtes dans le genre qu'on vous a attribué, vous pouvez venir. Il n'y a aucun problème, il y a des gens qui seront là pour vous parler, on fera votre accueil, vous pourrez, je viendrai vous voir, il n'y a pas de souci.
Et puis de toute manière, au final, on s'aperçoit qu'il y a plein de profils qui sont proches, en fait, dans la communauté. On est toutes des isolées un peu, ou des personnes qui ont peut-être un peu de mal, des fois, avec la socialité.
Ce qui fait du bien de se retrouver entre adelphes, de pouvoir voir aussi que les personnes trans existent, qu'il y a une diversité dans le fait d'être trans.
Il y a une énorme diversité.
Ça fait super du bien.
Ouais.
Et de pouvoir après se faire des amis. Ça, c'est
et pas le chouette. Voir qu'elle existe trans. Ça, c'est
oui,
cool
c'est
aussi.
Ça aussi. C'est bien d'être dans la rue de temps en temps.
Et d'ailleurs, c'est plus au mois d'octobre. Ils ont mis ça en été, c'est vrai. J'ai oublié ce basculement. Bon, ça veut dire agenda ?
Agenda.
Non, je ne mets pas de jingle, il est bien trop long.
Jingle agenda.
Jingle buccal.
On a deux petits rendez-vous à vous proposer pour rester dans ce côté militance et défense de nos droits. Le 23 septembre, il y a une manifestation nationale contre les violences policières et le racisme systémique. Parce que si on veut vaincre le racisme, il va falloir peut-être en parler et dire qu'il y a un problème pour arriver à changer les choses. Ce qui n'est pas encore le cas dans les plus hautes sphères de l'État. Donc il y a un rassemblement à Reims à 14h... T'as le lieu ?
J'ai le lieu, la sous-préfecture de Reims,
sous-préfecture
à 14h, 4 Place Royale,
donc,
je crois
ce
que
samedi.
Vous ne pouvez pas la louper.
Donc nous, on y sera sûrement, donc vous pouvez venir, parce que c'est important d'essayer de faire évoluer la société pour qu'elle soit bien meilleure pour tout le monde. Et l'autre rendez-vous, c'est le 13 octobre, il y a donc l'insert syndical qui fait un appel pour retourner dans la rue, et il y a un super collectif trans qui s'appelle OST, donc Organisation des Solidarités Trans, qui est basé, je crois, à Tours, si je ne m'abuse.
Possiblement.
Je crois que c'est à Tours, à la base. Ils ont le meilleur logo qui existe, avec un bouclier, je le kiffe, c'est magnifique.
Allez voir.
Et donc, eux, ils appellent à rejoindre les forces syndicales pour lutter contre l'inflation qu'on vit toutes, les retraites, parce qu'on lâche pas l'affaire sur cette saloperie qui a été votée sans notre accord. Et aussi pour commencer à crée la résistance face aux attaques trans qu'on va se prendre dans la gueule dans les prochains mois, très fortement. Donc c'est important d'être là, c'est important d'être présent, c'est important de montrer aussi aux gens que, bah, qu'on fait partie de leur monde, parce que je sais qu'au Pink Blog du 1er mai, il y avait plein de gens qui étaient disent « Ah, c'est cool de vous voir dans les manifs retraites !»
Bah oui, en fait, on
mais
est déjà
on est là,
là
tout le temps, mais sauf que là, on était visible en tant qu'LGBT, et je pense que des fois, c'est bien de le faire,
ce
et c'est important.
Ce qui nous a permis
là,
des belles représailles après aussi, hein, parce que pour une fois qu'on est visible, la police ne le loupe pas, hein, ah, ça, ça aussi, on peut le mentionner.
Voilà, voilà pour ça qu'on marche le 23.
Donc, marchez, mais marchez safe, marchez avec vos alliés, avec vos adelfes, avec vos amis, faites bien attention à vous,
oui.
Parce que eux, ils nous font pas de cadeaux, quoi.
C'est clair, ça crève les yeux, on dirait l'autre. Et on se retrouve le mois prochain.
Ouais,
si
normalement.
Vous le voulez bien.
Je sais même pas ce que c'est le programme.
On ce sera la surprise.
Ouais,
je crois qu'il y aura peut-être des.
Il y a peut-être des changements de programme.
Il restait l'agenda de la Tarasque.
Mais bien sûr,
on se retrouve tous les dimanches jusqu'à la mort. Donc contactez-nous.
Jusqu'à la mort. Ah bah,
c'est beau.
Et on commence à s'hormoner.
Mais la mort de
bout,
qui
hein.
En fait
parce jusqu'à
coup,
ma mort.
Ah, d'accord.
On continuera après toi.
Oui, vous continuerez après moi. Vous allez m'enterrer, continuer à vous hormoner et c'est beau. Voilà.
On te mettra un jet dans la tombe.
Et sachant qu'on parle pas que d'hormones, hein. La Tarasque.
Ah, si on parlait que d'hormones, ce serait supportable, ouais, parce que...
On parle de Magic aussi.
On parle beaucoup de Magic,
malheureusement.
Il faut
de Star Trek aussi.
Il faut savoir que ces rendez-vous finissent souvent un peu tardivement le soir.
Oui.
Enfin, après, chacun est autonome.
Ça finit souvent
hein.
En pizza, d'ailleurs,
souvent
j'ai l'impression.
Pizza,
ouais.
Ah.
Parce qu'il faut manger aussi, c'est important.
Prendre soin de ses adelfes, c'est aussi prendre soin de leur nourriture. Nous, on va vous laisser en compagnie du foutoir qui va reprendre le direct. Et je vais me faire plaisir. Pour terminer
c'est
cette
ton
émission,
moment.
Vous pouvez réécouter Daiquiri ce samedi, entre 12h et 13h, on le
ça,
rappelle.
Ça n'a pas changé.
Oui, ça n'a pas changé. Mais retenez bien, maintenant, le Daiquiri, c'est
le
mercredi, le troisième mercredi.
Parce que c'est le jour des enfants, non, pas du tout.
Non, parce que Juju et sa bande, le mardi, voulaient 2h. Voilà, donc on leur a dit, ok, la grotte à vos potes, vous avez le droit d'avoir 2h d'émission,
on
nous on
ça,
dégage. Nous, les trans, on dégage. Voilà, toujours pareil.
Ah, mais mercredi, c'est bien, moi j'aime
non,
bien.
Non, on aime bien le mercredi, c'est pour les enfants, ça nous va bien. Donc on va se passer les Lambrini Girls que vous avez déjà écouté maintes fois sur Radio Primitive. Je sais que plusieurs émissions, pas actuellement, mais oui, je sais que plusieurs émissions vous en ont déjà parlé puisqu'elles étaient présentes au dernier festival, à la dernière édition du Cabaret Vert et elles ont foutu un sbeul. Je suis revenue de ce spectacle, de ce concert, j'avais de la bière partout.
Et des paillettes dans les yeux.
Et non, des copeaux de bois. parce qu'au Cabaret Vert, on
c'est
est
moins
écolo.
Bien que paillettes.
C'est pareil.
Non mais parce qu'à un moment, la chanteuse a trouvé, elle a vu des gens se balancer les copeaux de bois. Et en fait, en l'occurrence, c'était un mec qui m'en balançait à moi. Je ne sais pas pourquoi, il m'avait pris pour cible. Et elle a trouvé ça génial. Et du coup, à un moment, elle a dit au public, baissez-vous et jetez les copeaux de bois partout. Ça va faire chier tout le monde. Et y en a qui s'en sont pris dans la gueule. Ça a fait une pluie de voilà. C'était sympa. Et donc, elles ont des chansons très politiques. C'est des meufs que je dirais cis, mais peut-être que je me trompe, c'est sans trop
savoir.
Elles ont sorti leur premier EP, Big Scary Monster, au mois de mai. Et il y a plein de chansons anti-turf, plein de chansons féministes, plein de chansons pour les queers, plein de chansons, voilà, trop bien. Et donc, ce qu'on va se passer, c'est Turf Wars, parce que fuck turf. Et on vous dit au mois prochain, alors, sur Radio Primitive. Merci beaucoup, la Tarasque, d'être venue.
Merci, Matraca, c'était chouette.
Ce collectif.
Bisous.
Lambrini Girls, ciao.